Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre versant de Montpellier. La semaine dernière, nous envisageons Montpellier sous l'angle de ses peintres et on découvrait bon nombre de lieux cachés, moins cachés, sous le regard des peintres, pratiquement à travers l'histoire de la peinture. Alors aujourd'hui, c'est à travers un peu l'histoire des sciences, l'histoire des savants, l'histoire des découvertes que l'on va parcourir Montpellier. Alors on ne parcourra pas tout, parce que ce serait trop long, mais on prendra comme ça, on va picorer quelques lieux significatifs, presque emblématiques de cette ville, qui a beaucoup consacré aux sciences et aux découvertes. Et nous allons le faire à travers un livre, Montpellier de savants en découverte, que l'on doit à M. Valdo Pellegrin, que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce livre, vous me disiez à part que vous aviez au fond mis 6 ans pour l'écrire après avoir accumulé bon nombre de documentations sur les sujets que l'on aborde dans cet ouvrage.
Oui, tout à fait. Pendant 30 ans, quand je suis enseignant, j'ai toujours eu plaisir à recevoir des amis à Montpellier, à leur faire visiter ma ville, parce que j'aime ma ville et j'aime l'histoire de ma ville parce que... Connaître l'histoire d'un lieu, c'est une façon de se l'approprier et de s'y sentir mieux. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'aime tant l'histoire. Et donc, au fil des ans, j'ai accumulé pas mal de renseignements. Et ces renseignements, ils ont été dans des chemises. Et puis, finalement, un beau jour, il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire une visite. Je n'avais jamais pensé à faire des visites. Et petit à petit, l'idée m'est venue que cette visite, je pourrais la mettre en musique en écrivant un livre sur le sujet. D'autant plus que je connaissais un éditeur, donc j'avais déjà sorti un livre sur le passé protestant de Montpellier, donc j'étais un petit peu dans la mouvance. Mais comme je ne suis pas historien et je ne le revendique pas, écrire l'histoire des sciences à Montpellier d'une traite comme ça, pour moi, c'était pas possible. Donc j'ai sélectionné 18 lieux de mémoire importants sur le plan scientifique dans la ville et j'en ai fait l'historique et donc chaque lieu de mémoire constitue un chapitre du livre.
Voilà. Alors, il faut dire quand même que vous êtes de formation, vous êtes chimiste, que voilà. Vous avez fait votre carrière à l'école de chimie de Montpellier.
Voilà, personne n'est parfait, vous savez.
Qui est une école célèbre quand même.
Oui, bien sûr, et j'ai eu même des professeurs célèbres, comme par exemple le professeur Max Mousseron, qui a laissé un souvenir inoubliable dans notre ville. C'était un très grand savant. Donc, effectivement, j'ai aimé la chimie, j'ai beaucoup aimé mon travail d'enseignant, et j'ai un peu ça dans la peau. Et si vous voulez, j'ai commencé, c'est assez amusant, l'idée m'est venue de recenser les rues qui portaient le nom d'un chimiste de Montpellierin, parce que figurez-vous que la rue qui longe l'école de chimie s'appelle la rue de Fort-Cran et que l'amphithéâtre principal de l'école de chimie s'appelle l'amphithéâtre de Fort-Cran. Et ça m'a donné l'idée de recenser. J'ai trouvé 14 rues qui portaient le nom d'un chimiste. Ça a été ma première publication, si vous voulez, dans ce domaine, portant précisément toujours sur Montpellier, ma ville.
Alors ce livre, c'est une sorte de synthèse, parce que c'est à la fois le livre d'un scientifique, et donc ça parle de science, et en même temps le livre d'un amoureux de sa ville, puisque ça parle de Montpellier. Et il se présente d'ailleurs, ce livre, au fond, comme une balade, on pourrait dire, à travers ces différents lieux de mémoire que vous évoquez, et chaque fois c'est l'occasion de faire ressurgir, avec beaucoup de talent, il faut le dire, le passé de ces lieux. Et alors, vous commencez par un endroit qui souvent passe inaperçu pour la plupart des gens, y compris des voyageurs, qui est devant la gare, le square Planchon.
Et oui, le square Planchon, c'était l'idée du maire Pagési, qui a d'ailleurs acheté ce terrain assez cher en 1858. Il voulait que le voyageur qui arrivait à Montpellier, qui sortait de la gare, puisse tomber sur un jardin, sur quelque chose d'agréable. Et effectivement, quand vous sortez de la gare, vous avez en face de vous la rue de la République et puis la rue Maguelone qui monte à la Comédie. Et entre les deux, il y a ce jardin qui a été dessiné par les frères Buller, qui étaient des paysagistes très célèbres à l'époque. C'est eux qui ont fait le parc de la Tête d'Or.
À Lyon.
Ils ont aussi fait le parc de Verchamp à Castelnau-le-Lez en 1878. Et ce jardin est merveilleux et agréable avec un bassin. Alors, dans ma jeunesse, il y avait des cygnes dans le bassin. Et puis, le jet d'eau central avec les petits rochers a considérablement grandi avec de la mousse qui s'est additionnée chaque année. Mais quand on regarde des photographies anciennes, on s'aperçoit qu'au début, c'était juste un petit rocher avec un jet d'eau au milieu.
Alors, dans ce jardin, il y a l'évocation d'un personnage important qui a résolu le problème, un problème qu'aujourd'hui, évidemment, on a un peu oublié, mais qui a marqué Montpellier, mais toute sa région, tout le Languedoc, qui a été la crise du phylloxéra.
Et oui, alors en prenant les choses un petit peu à l'envers, disons que dans ce jardin, le monument à Planchon, puisqu'il s'agit de Jules-Émile Planchon, le botaniste et professeur de botanique en médecine, directeur du Jardin des Plantes, professeur de botanique à la Faculté des Sciences, il a un peu tout fait. Ce monument est dû à Auguste Bossan, un sculpteur qui a fait de multiples monuments à Montpellier. Et le monument a été érigé par souscription par les viticulteurs reconnaissants du travail qu'a fait Planchon. Disons bien qu'on dit souvent Planchon qui a découvert le phylloxéra. Ils étaient trois le jour où ils ont découvert le phylloxéra. Mais si vous voulez, Planchon a joué un petit peu le rôle de leader dans cette histoire. Hein. Donc il ne faut pas tout ramener à Planchon. Mais il était un scientifique, il était un universitaire qui a fait des publications. Donc effectivement, il est certainement celui qui a été le plus connu. C'est pour ça qu'il a droit à un monument, ce que n'ont pas eu droit aujourd'hui, les co-découvreurs.
Aujourd'hui, on dirait le plus médiatique.
Oui, ça, voilà, tout à fait, tout à fait. Parce que, en fait, le phylloxéra a été découvert le 1868, à côté de Saint-Rémy-de-Provence, par un triumvirat qui était constitué précisément de Planchon, l'universitaire, mais de Gaston Basile, qui était président de la Société Centrale d'Agriculture de l'Hérault, le père du peintre, Frédéric Basile, et de Félix Sahut. Donc c'est tous les trois, ils ont découvert, et quand ils ont annoncé que le phylloxéra, toutes ces souches qui mouraient, et c'était dû à un puceron, les Parisiens ont rigolé en disant « ils se foutent de nous, c'est pas vrai, c'est pas possible qu'un puceron soit à l'origine de centaines et de centaines d'hectares de vignes qui périclitent ». Et pourtant, c'est eux qui avaient raison.
Et oui, parce qu'il y a eu une véritable... c'était une catastrophe. Le vignoble a été entièrement dévasté.
Le vignoble a été entièrement dévasté. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que ce puceron est dans la terre, et c'est un puceron qui existe sous des formes sexuées, asexuées, des formes qui vivent dans la terre, des formes qui vivent sur les feuilles, des formes ailées qui permettent à la maladie de se propager. C'est né au bord du Rhône, et à côté de Bordeaux, à Floirac. Et ça s'est déplacé, la maladie s'est déplacée vers l'Hérault et vers Béziers à la raison d'à peu près 10 km par an. Hein. Donc en 1868, c'était au bord du Rhône. En 1878, c'était aux portes de Montpellier. Et ensuite, c'est arrivé à Béziers. Alors, il y a eu un certain déséquilibre. Dites-vous bien qu'à l'époque, un viticulteur qui avait 4 hectares de vignes, pouvait faire vivre sa famille avec 4 hectares de vignes. Ouais. Et le jour où il perd son outil de travail, sa vigne, il n'a plus rien. Son terrain ne vaut plus rien et il n'a plus de récolte, il n'a plus de revenus. Alors ça a entraîné des catastrophes. Il y en a qui ont immigré en Algérie, il y en a qui se sont suicidés. Ça a été une misère effroyable. Et songez que la crise économique qui a entraîné la crise du phylloxéra, ça nous a coûté plus cher que les indemnités de guerre qui ont été payées à l'Allemagne après la guerre de 1870.
Ouf, en effet.
C'est énorme, énorme.
Et alors donc, quand la découverte du phylloxéra, d'après ce que j'ai compris en vous lisant, doit quelque chose aux Américains.
Façon de parler. Façon de parler. Non, on s'est longtemps interrogé de savoir d'où venait ce puceron. Et en fait, ce puceron, ben, il venait tout simplement du fait qu'il y avait eu une première crise avec une maladie qu'on appelle l'oïdium. Et des pépiniéristes se sont dit, tiens, si on essayait la vigne américaine, peut-être qu'elle résiste à l'oïdium. Mmh. Donc, à Floirac, à côté de Bordeaux, et à Pujol et Roquemort, dans le Gard rhodanien, des pépiniéristes ont fait venir des plants américains. Et ils ont importé avec eux le puceron. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment ça se fait qu'en Amérique, il n'y avait pas de problème? Eh bien, il se trouve que la vigne américaine a une racine qui a une écorce qui est très, très épaisse. Et donc, le puceron avait beaucoup de mal à percer cette écorce, ce qui fait qu'il y avait un équilibre entre la vigne américaine et le puceron. Mais quand le puceron est arrivé en France, il est tombé sur une vigne qui a une fine pellicule sur les racines. Et là, il perçait facilement. Ouais. Ça faisait un abcès, d'ailleurs. Et il se nourrissait, il s'est multiplié à une vitesse phénoménale. Et résultat, ben, quand vous avez des millions et des millions de pucerons qui sucent les racines d'une souche, elle finit par mourir.
Voilà, donc, effectivement, ça a modifié complètement l'économie et le paysage du Languedoc. Mais fort heureusement, grâce à ce monsieur Planchon, on en est sorti.
Et grâce à ce qu'on a appelé les américanistes, parce qu'on a essayé des tas de solutions, hein, mais on s'est aperçu que finalement, la seule solution valable, c'était de planter de la vigne américaine, dont les racines résistent au phylloxéra, et de greffer dessus la vigne française. Et quand on a fait ça, le premier qui a fait ça, c'est précisément Gaston Basile, à Saint-Sauveur, à Latte, et on s'est aperçu que la vigne était très productive et qu'elle donnait le raisin de la vigne française. Parce que le raisin de la vigne américaine donnait un vin qui était très très mauvais et, pas, et qui ne se conservait pas.
Donc c'est la greffe, au fond, qui a résolu la question.
Du coup, la vigne, la culture de la vigne est devenue beaucoup plus scientifique parce que cette vigne greffée est très productive mais beaucoup plus sensible aux maladies. Et c'est pour ça qu'il faut traiter en permanence, pratiquement, notamment contre l'oïdium, avec la bouillie bordelaise, contre la pourriture noire, contre le mildiou et toutes ces maladies. Voilà, ça a changé complètement la façon de cultiver la vigne, qui est devenue une façon beaucoup plus scientifique qu'avant.
Alors, on va laisser un petit peu s'éloigner de Square Planchon, et puis on va se diriger vers une rue, enfin presque un quartier aussi, et qui est tout proche, puisque Divergence, nous sommes voisins du quartier Candolle. Et alors, moi-même, j'ai un peu appris, je connaissais vaguement, mais j'ai appris plein de choses sur ce monsieur Candolle, qui était d'ailleurs, qui s'appelait De Candolle, en réalité.
Oui, Augustin Pyramus de Candolle. Et cet homme, si vous voulez, bon, c'est assez amusant. Figurez-vous qu'il est allé il est allé à Paris faire des études de médecine. Et là, il a rencontré Cuvier, des grands de ce monde. Et lorsque un poste s'est libéré à Montpellier, par la mort d'Auguste Broussonnet, on connaît tous la rue Auguste Broussonnet, il a été nommé professeur à la faculté de médecine de Montpellier, professeur de botanique. Et il faut le dire, c'était vraisemblablement l'un des plus grands savants de son époque. Et quand il est arrivé à Montpellier, quelques temps après, on a fondé la nouvelle faculté des sciences et on lui a demandé d'assurer les cours de botanique de la faculté des sciences. Et figurez-vous qu'à cette époque, quand on était professeur dans deux établissements différents, on avait double salaire. On
avait un salaire. Pas mal.
Voilà. Et alors là, Cuvier lui a dit, écoute, quand même, comme tu vas faire le même cours en médecine et à la faculté des sciences, bon, pour la faculté des sciences, on va te payer au demi-tarif. Donc, tu auras seulement 1500 francs par an pour ton cours à la faculté des sciences. Voilà. Mais il a un peu révolutionné les choses, puisque, à l'époque, beaucoup de cours se faisaient par des lectures. Mmh. Et lui a fait un cours très vivant, sortant de ses... qui venait de ses propres recherches. Il a fait un cours comme on les fait, nous, aujourd'hui, à peu près, vous voyez. Ce qui fait qu'il a attiré quand même beaucoup de monde. Ensuite, il a obtenu l'agrandissement du jardin des plantes. Il y a une propriété qui est... Le Jardin des Plantes se limitait, si vous voulez, à ce qu'on appelle aujourd'hui la montagne. Et lui, il a fait acheter par la municipalité la partie qui va de la montagne jusqu'à la rue Auguste Broussonnet, là où il y a l'Institut de botanique.
La montagne, l'appellation
Ce qu'on appelle la montagne, c'est ce monticule que vous avez au centre du Jardin des Plantes, qui est orienté est-ouest, avec un côté au soleil, la Drée, un côté... un côté qui est à l'ombre, qu'on appelle Lubac. Et donc, il a fait acheter ce terrain. Donc, il a agrandi le Jardin des Plantes. Il a planté ce qu'on appelle l'école forestière. Mmh. Et vraiment, il a fait un très, très bon boulot. Malheureusement, il était là à une époque un peu troublée. Il avait demandé à être recteur. Et puis, il n'a pas été recteur. Et quand Napoléon est revenu... Pendant les 100 jours, il a été nommé recteur. Et à ce moment-là, il a déplacé les services du rectorat dans le bâtiment qui était l'intendance du Jardin des Plantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant très longtemps, le rectorat est resté dans l'intendance du Jardin des Plantes. Voilà. Mais quand, au cours de la deuxième restauration, les royalistes ont repris, et l'Église catholique, ont repris le dessus dans la ville de Montpellier. On l'a pas mal embêté. Alors, il est allé à Paris, et les Parisiens, le chef de l'université, c'était un évêque qui s'appelait l'évêque Villaret. Cuvier, on l'avait gardé, bien qu'il ait été de l'époque napoléonienne, mais c'était un homme très, très, très connu et très, très savant. Donc Cuvier et Villaret proposent à notre ami Candolle de le nommer. On dit, bon, ça serait difficile de vous nommer recteur, mais on va vous nommer doyen de la faculté de médecine et de la faculté des sciences. Et alors il dit, pour la médecine, non, je ne veux pas, mais les sciences, je veux bien. Et il pensait revenir ici comme doyen. Mais quand il est arrivé ici, on lui reprochait d'être protestant, d'être citoyen de la ville de Genève, d'avoir été recteur pendant les 100 jours. On lui a fait plein de crasse. Et il s'est dit, bon, je ne sais pas, il se sentait un peu mal à l'aise. Il serait resté, mais le jour où son collègue lui a dit, ah, tu sais... Dans la cellule des francs-maçons, on a décidé que tous ceux qui avaient accepté une place pendant les 100 jours, on les excluait. Alors là, il a dit, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il est resté encore un an pour récupérer l'argent qu'il avait avancé pendant les troubles, parce qu'il avait, avancé de l'argent personnel pendant les troubles pour son travail. Il a attendu qu'on lui verse ses arriérés de salaire et il est reparti à Genève. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on disait du mal de lui, mais en même temps, une fois qu'il est parti, tout le monde était désolé. Voilà. Ouais, finalement, il a passé que 8 ans à Montpellier, mais ça a vraiment marqué. Et plus tard, la rue qui s'appelait rue du Saint-Sacrement s'est appelée rue de Candolle. Et la place de l'université, les Montpelliérains, l'appellent Candolle aussi. Candolle.
Alors, nous, on va faire quelques pas, s'éloigner un peu du quartier Candolle. Et puis, et pas loin du tout, alors, existe la Panacée. Alors, voilà un lieu que pendant très longtemps, on a quasi presque ignoré l'existence. Et puis, des travaux, une mise en état et le fait de consacrer ce lieu à l'art contemporain lui a tout à coup donné une deuxième jeunesse, voire une troisième. Et c'est un lieu terriblement emblématique de Montpellier, alors là, pour le coup.
Oui. Alors, c'est assez amusant parce que figurez-vous qu'au départ, les premiers médecins de la ville qui ont commencé à enseigner la médecine enseignaient chez eux et étaient payés directement par les étudiants qui les avaient choisis. Mmh. Ensuite, il y a eu des ententes entre les médecins, un peu de déontologie. On n'a pas le droit de débaucher un étudiant qui fait des études chez le voisin, etc. Et puis, il y a eu le pape qui a fondé le collège de Mende, rue Germain, qui s'appelait d'ailleurs autrefois la rue Saint-Mathieu, parce que vous avez juste à côté l'église Saint-Mathieu. Et finalement, ce que les médecins ont utilisé quelquefois le collège pour faire des cours à plusieurs étudiants. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit, mais ça serait pas bête qu'on ait nous-mêmes un endroit où se réunir et où faire nos cours. Parce qu'ils faisaient les cours à domicile, mais pour les examens, on allait soit à l'église Notre-Dame-des-Tables, celle qui était place Jean Jaurès, c'est là qu'on passait ce qu'on appelait les points rigoureux, et puis les doctorats se passaient à l'église Saint-Firmin, qui a été détruite, mais qui est à côté de la rue Saint-Firmin, de la rue Ruffy, c'est là qu'elle se situait, et la licence, on allait à la salle Lévesque, rue Salle Lévesque, qui n'avait pas encore été détruite par les protestants en 1568. Ce qui fait que ils ont... Dans cette rue-là, qu'on appelait la rue du bout du mont, parce que c'était le sommet de la côte. C'est ça. Et vous savez que chez nous, on fait toujours un peu traîner les syllabes. Alors petit à petit, la rue du bout du mont est devenue la rue du bout du monde. Voilà. Et là, ils ont acheté, ils se sont cotisés entre étudiants et enseignants pour acheter deux petites maisons. Alors l'une des maisons servait au concierge et l'autre maison servait pour une part de vestiaire aux professeurs et de salle de cours. Et c'est dans cet endroit, donc, dans cette rue, qu'est née la faculté de médecine. Je dis la future, c'était pas encore vraiment une faculté. Ça a commencé à le devenir en 1498, lorsque le roi Charles XII a décidé de créer quatre régences, on dirait aujourd'hui quatre chaires. Et parce qu'il se trouve que les professeurs étaient souvent absents, que les cours laissaient parfois à désirer, etc. Et quelques médecins montpelliérains ont persuadé le roi que si c'est lui qui payait les professeurs, il pouvait exiger que les cours soient faits régulièrement et que les cours soient bons. Et d'ailleurs, ça s'est traduit dans les faits, puisque au début, les professeurs allaient toucher leur salaire au grenier à sel, mais il fallait qu'ils y aillent avec des étudiants qui attestaient qu'ils avaient bien fait leurs cours.
Ah ouais,
c'était la règle au début. C'est dommage qu'elle se soit perdue peut-être quelquefois, mais enfin bon, c'était la règle à l'époque, voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé en 1498 l'enseignement médical dans le lieu que nous appelons aujourd'hui la Panacée. Et jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1792. Date à laquelle l'université a été supprimée, eh bien, l'enseignement médical s'est tenu là. Et puis ensuite, après la Révolution, eh bien, en 1803, la création d'une faculté de médecine, de pharmacie, pardon, a fait que la pharmacie s'est installée dans ces lieux jusque dans les années 1960, date à laquelle la pharmacie est partie avenue Charles Flahault, là où elle est actuellement.
Ce qui fait d'ailleurs que l'on... Dans le souvenir de beaucoup de Montpelliérains, c'est surtout la pharmacie qui est restée.
D'ailleurs, la rue du bout du monde a pris le nom de rue École de pharmacie qu'elle a encore de nos jours.
Alors, on va revenir vers le centre-ville et s'intéresser, toujours sur la médecine, parce qu'au fond, c'est quand même la science qui a peut-être le plus marqué cette ville, des origines même jusqu'à nos jours. Avec l'hôtel qui abrite aujourd'hui la chambre de commerce, l'hôtel Saint-Côme.
Ah oui, oui, tout à fait.
Parce que là, c'est un lieu fantastique.
C'est très amusant. Et oui, parce que tout ça, c'est dû à la Péronie. La Péronie avait son père qui avait une boutique au 56 Grand Rue, c'est-à-dire à l'angle de la Grand Rue, de la rue Angouan. Et d'ailleurs, là, les deux maisons appartenaient à la famille... à la famille Lapéroni. Et ce Lapéroni a envie de devenir chirurgien comme son père. Et son père, lui, aimerait bien qu'il soit médecin, car vous savez, les médecins méprisaient les chirurgiens qui, en fait, étaient barbiers chirurgiens au départ. Et le professeur Chirac, qui était un ami de la famille, dit à son père, mais non, ne le contrariez pas, si vraiment il veut faire ça et qu'il a la vocation, il faut le laisser faire. Et donc, il va faire ses études de chirurgien à Montpellier, il va être chirurgien à l'hôpital Saint-Éloi, qui se trouvait dans l'actuelle rue de l'université, là où il y a le rectorat. Et puis, Chirac leur conseille, leur dit, écoutez, moi, je connais bien le chirurgien du roi Louis XIV, c'était encore Louis XIV à l'époque, il s'appelle Maréchal, et ça serait bien que votre fils, maintenant qu'il est chirurgien, qu'il a eu un peu de pratique à Montpellier, aille se perfectionner à Paris avec mon ami Maréchal. Et donc, il est parti, et à Paris, il s'est formé, il a été apprécié à la cour, il a eu quelques succès extraordinaires de réussite dans des opérations. C'était un homme très méticuleux qui préparait ses opérations, qui préparait ses instruments, qui réfléchissait bien à la façon dont il allait opérer. Et il avait vraiment le coup de main qu'il faut à un chirurgien. Mmh. Et donc sa réputation grandissante, eh bien, à la mort de Louis XIV, eh bien, on a appelé à la cour la Péronie, qui est devenue petit à petit, lorsque Maréchal est décédé, qui est devenu le confident de Louis XV. Alors avec Maréchal, ils ont créé l'Académie de chirurgie pour essayer de donner du tonus et de stimuler un peu les chirurgiens avec les publications, etc. Il a obtenu en 1743 qu'on sépare complètement le chirurgien du barbier, car il y avait encore certaine confusion. Et son rêve, c'était que la chirurgie soit intégrée à la médecine. Il n'a jamais pu le réaliser, mais il a fait un geste extraordinaire. Alors qu'il avait 53 ans, qu'il était en pleine gloire, il est allé passer les examens de médecine à l'université de Reims pour être médecin. Ouais. Donc, et c'est pour ça que le tableau...
Belle leçon d'humilité.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que le tableau qu'il représente à la faculté de médecine, le représente en habit de cour et non pas du tout avec une robe professorale, parce que voilà, il considérait qu'il n'était pas professeur de médecine, mais qu'il était chirurgien. Alors, il a amassé une fortune considérable, et cette fortune, en gros, il l'a partagée, si vous voulez, entre les médecins de Paris et les médecins de Montpellier. Et il a légué 100 000 livres aux médecins de Montpellier, plus ses deux maisons, qui se trouve à l'angle de la grande rue, de la rue Angouan, et en Gondeau, pardon. Et il a demandé qu'on détruise ces deux maisons pour construire un amphithéâtre sur le modèle de celui de Paris. Et là, les chirurgiens de Montpellier ont été assez fins. Ils ont calculé que la surface des maisons qu'on leur proposait faisait 180 mètres carrés. Mais à l'opposé, dans la rue Angouan, c'est pour ça que j'ai fait un lapsus tout à l'heure. Oui. Donc, il y avait une auberge qui s'appelait l'auberge au Lion d'Or. Alors là, je n'avais pas réalisé, je l'ai réalisé il y a quelque temps. Au Lion d'Or, c'est,
oui.
Voilà, c'est, il y a
oui,
un jeu de mots.
Il y a un jeu de mots, tout
voilà,
à fait.
C'est une auberge dans laquelle, certainement, quand on est au lit, on dort bien. Hein. Voilà. Donc, ils ont racheté cette auberge. Et là, ils avaient un terrain qui faisait, je crois, 490 mètres carrés, beaucoup plus grand. Mmh. Et c'est là qu'on a demandé à Giral de construire un amphithéâtre sur le modèle de celui de Paris, mais entre nous, beaucoup plus beau que celui de Paris, car celui de Paris est un peu tassé. Mmh. Giral a eu l'idée de surélever la coupole donc, là, et de magnifique. Faire un amphithéâtre remarquable. Ouais. Alors, il a été inauguré, si mes souvenirs sont bons, à la fin des années 1750 ou par là, vous voyez. Et il n'a pas duré très longtemps, puisque en 1792, la Convention supprimait les écoles de chirurgie comme les écoles de médecine. Mais enfin, pour moi, c'est un des plus beaux monuments de Montpellier. Vraiment, j'adore cet hôtel Saint-Gaume qui est vraiment splendide.
Voilà, eh bien, écoutez, nous avons essayé de donner un avant-goût de ce que procure la lecture de ce livre que je conseille, parce que vraiment, c'est passionnant. En vous écoutant, on voit bien qu'on a à la fois la dimension scientifique, mais aussi la dimension personnelle. Tous ces savants nous deviennent presque familiers. On les suit au jour le jour, dans leur quotidien. C'est assez formidable. Et c'est aussi une formidable promenade à travers Montpellier et ses lieux les plus emblématiques. Merci beaucoup, Monsieur Pellegrin.
Merci à vous.
Alors, je rappelle le titre de ce livre, Montpellier de savants en découverte, tout au pluriel, que l'on doit à Valdo Pellegrin, et ce livre est paru aux éditions Alcide. À la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.